Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Lorsqu'un nouveau cours commence, que l'on franchit ce seuil et que l'on prend place, rien ne semble avoir changé. Tout paraît identique dans cette salle. Puis nous nous rendons compte que ce qui a changé, c'est nous, vous comme moi. Du temps a passé, nous avons vécu, appris, et nous attendons à ce qu'un nouveau sujet nous accompagne pendant les mois à venir, chaque semaine, une heure. Écoutons Ovide nous décrire cette condition et parler un peu de nous. Et puisque je vogue en pleine mer, ayant confié mes voiles au vent qui les gonfle, sachez que dans le monde entier, il n'y a rien qui persiste. Tout s'écoule et toute image formée est fluctuante. Le temps lui-même glisse dans son mouvement continu, non moins qu'un fleuve. En effet, les fleuves ne s'arrêtent pas, pas plus que l'heure légère. La vague est poussée par la vague, la première étant poussée par celle qui vient et elle-même poussant celle qui la précède. Les instants fuient de la même manière et de la même manière ils se succèdent et ils sont toujours nouveaux. C'est vers Ovide, avec cette similitude entre le temps et les fleuves, dont l'image remonte à Héraclite et à Pythagore, nous introduit au sujet du cours, celui des métaphores dans le droit romain. J'ai hâte de vous en parler, car c'est un champ en partie nouveau pour moi également, même si j'ai souvent traversé ce champ dans mes recherches. C'est à la suggestion d'un jeune collègue, François Vaquet, que je dois d'en avoir fait le thème d'un cours. Des métaphores chez les juristes. Existent-elles vraiment dans un langage synonyme de précision, mais aussi d'obscurité sans éclat, bref, emblème de littérature grise, terme qui est par ailleurs une métaphore. Bien sûr qu'elles existent. Je dirais même qu'elles sont indispensables précisément parce qu'il s'agit d'un langage technique qui doit représenter un monde qui n'existe pas en dehors de l'esprit des juristes et du législateur. Donc, il faut forger des concepts, trouver un nom à des figures qui n'en ont pas. La métaphore désigne une chose au moyen d'un terme qui, normalement, en désigne une autre. Et justement, comme la plupart des figures juridiques n'existent pas à l'état naturel, pour les rendre plus compréhensibles, il faut les rapprocher de ce qui constitue déjà notre expérience. La métaphore est une façon d'insérer l'indicible dans un cadre familier et d'essayer de le nommer et par ce biais de l'appréhender. Et puis, ne nous étonnons pas, les sciences de la nature aussi, même si elles s'intéressent à des phénomènes concrets, sont riches en métaphores pour les décrire. Nous avons tous entendu parler de la soupe primordiale, mélange de substances organiques et d'eau qui aurait donné origine à la vie sur Terre. En physique des particules, il y a la théorie des cordes où les particules ponctuelles sont représentées par des objets unidimensionnels assimilés aux cordes d'un violon. En cardiologie, on parle de souffle au cœur et en astronomie, des étoiles naines. Et les comètes ont des queues de plasma et de poussière. Autant d'expressions métaphoriques. Ces exemples nous montrent déjà que les métaphores ne sont pas seulement des expressions isolées, mais qu'elles englobent une pensée. Elles présupposent et découlent d'un concept. Parfois, elles renferment des théories entières, comme dans le cas de la théorie des cordes, qui se veut probablement à tort, un modèle décrivant toutes les forces et toutes les formes de la matière. Une théorie qui a même inspiré un roman, Puissance des métaphores, qui naissent du langage pour expliquer la nature et qui, de la nature, reviennent ensuite au langage et à l'imagination. C'est pourquoi il me semble intéressant d'étudier les métaphores dans le langage des juristes romains. Car même en droit, les métaphores révèlent une pensée sous-jacente. Une pensée sous-jacente. C'est ça, c'est le cœur de ce cours. Une manière d'exprimer non pas une figure isolée, mais un ensemble de valeurs et des façons de concevoir la vie en société. J'insiste sur cet aspect. Il ne s'agira pas seulement de se laisser charmer par des expressions inattendues et bien trouvées, ce n'est pas seulement le niveau stylistique qui est ici en jeu. De nombreux concepts juridiques sont structurés en fonction des modèles durables de pensée métaphorique observés dans d'autres domaines de l'expérience humaine. Ce sont ces modèles que je souhaite dévoiler avec vous. Cette exploration peut nous faire pénétrer très profondément dans la mentalité juridique et aussi dans le temps. C'est-à-dire remonter vers l'origine de notre propre façon de concevoir les droits qui est largement dépendante du langage romain. Comme toujours, mon propos est de nous donner les moyens de redécouvrir l'origine romaine de certaines de nos pensées et par cela nous ouvrir une marge de liberté par rapport à cette tradition. Car vous savez que lorsque l'on est un secret concernant le passé, il va peser plus lourd sur la vie de ceux qui le refoulent. La relation du droit avec le temps peut être envisagée de différents points de vue. Si nous pensons à un système parlementaire, par exemple à la réforme des retraites ou à la loi immigration, c'est comme assister en direct à la naissance d'un nouveau droit. Mais si nous nous plaçons dans une perspective de longue durée, il est presque impossible de déterminer quand le droit a commencé à exister. Une perspective de plus longue durée. Imaginons la Rome antique. Les 12 tables ont été publiées au 5e siècle avant Jésus-Christ, en 451-50 pour être précis. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un moment de naissance. Cependant, les 12 tables étaient en partie une codification de règles et d'institutions déjà existantes. Il faudrait donc remonter plus loin pour trouver l'origine véritable du droit. Mais les documents se raréfient et puis cessent complètement. L'origine du droit s'enfonce dans la brume de l'histoire, au début de la cité des Roms, peut-être même avant elle. Comment faire lorsque les documents manquent? Lorsqu'on n'a pas des narrations, l'un des indices qu'on peut exploiter, c'est la langue. Ici même, au Collège de France, dans les années 60, Émile Benveniste a étudié les vocabulaires des institutions chez divers peuples descendants des Indo-Européens, dont les Romains. Qu'un peuple ancêtre commun a existé, cela a été confirmé ces dernières années par des études paléogénétiques. Son foyer originaire a été localisé à partir d'environ 3500 avant Jésus-Christ, dans la région située entre l'Ukraine et le sud de la Russie. La paléogénétique a pu aussi retracer sa dissémination, la dissémination de ce peuple originaire, dans l'espace eurasiatique. Dans la langue des peuples descendants de ce noyau proto-indo-européen, résident des idées communes concernant les institutions, les droits, qui peuvent éclairer un stade très ancien. Le langage fait donc fonction de documents. C'est aussi vers le langage que je vous propose de nous tourner cette année, mais dans une perspective bien évidemment différente, celle des métaphores, les métaphores du corps plus exactement. Nous irons en quête de figures qui évoquent le corps pour parler du droit. Commençons par un exemple. Ces propos, on peut le lire dans les Instituts de Justinien. Il s'agit, comme vous le savez, d'un manuel de droit rédigé par cet empereur en 533 après Jésus-Christ, mais qui est une mosaïque de passages tirés des livres des juristes antérieurs. En l'occurrence, ce passage provient, selon toute vraisemblance, d'un ouvrage du juriste Marcien, rédigé vers 230 après Jésus-Christ, à l'époque dite classique, à peu près 3 siècles avant Justinien, qui l'a repris tel quel et placé dans ses instituts où nous le lisons. Mais l'esclave, ayant été manu mis, ne perd pas sa tête parce qu'il n'avait pas de tête. Que signifie exactement ce propos? Tout cela semble un peu bizarre. Cette impression est en partie due au vocabulaire, en partie au contexte. Pour le dire autrement, cette étrangeté vient du fait que les Romains exprimaient parfois des idées qui ne sont pas les nôtres. Et c'est à ce moment, justement, que les anciens deviennent intéressants pour nous. Le juriste Marcien, l'auteur, disons, de ce passage, repris par Justinien, parle en effet d'une règle implicite qu'il connaît, et ses lecteurs aussi, et qui constitue un cadre d'intelligibilité de ce propos. Pour nous, il faut l'expliciter. Partons du participe manumi. En latin, ce verbe désigne la libération d'un esclave. L'esclave sort du pouvoir de son maître. La règle implicite qui constitue l'arrière-plan de ce propos est que normalement, lorsqu'un individu change de pouvoir, sort de pouvoir de quelqu'un, entre sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, ou se libère de tout pouvoir, dans ces cas, une transformation de sa condition juridique a lieu. Par exemple, un enfant qui est sous la puissance de son père, si ce dernier le donne en adoption, il change de statut. Ce changement est appelé capitis minutio, littéralement perte de la tête. Mais dans notre passage, il est dit que l'esclave manumi ne perd pas la tête. C'est là justement le nœud problématique, le point de bascule. Un esclave sort du pouvoir du maître sans cependant perdre sa tête. Mais pourquoi, si la règle le voulait autrement? Réponse du juriste, parce qu'auparavant, il n'en avait pas une. Avant d'être affranchi, l'esclave n'avait pas cette condition que les Romains appellent caput. Donc, sortant du pouvoir de son maître, il ne peut pas l'avoir perdu. Tout est alors question de savoir ce que signifie caput. Je n'ai pas l'intention de m'y arrêter maintenant, nous le ferons dans une autre séance. Disons que caput, dans ce genre de contexte, exprime une notion proche de ce que nous appelons aujourd'hui la personnalité juridique, sans la recouvrir exactement. Car la notion de caput est aussi étroitement liée à l'appartenance à un groupe et à la structure potestative de la famille romaine. Donc, quitter ce groupe, c'est perdre ce statut, c'est perdre sa tête. Caput est ici une métaphore, ou pour être plus précis, une métaphore greffée sur une synecdoque. Nous voyons ici une statue de Septime Sévère, jadis au Metropolitan de New York, ensuite restituée à la Turquie et la tête gardée au Danemark, qu'on a longtemps cru appartenir à la même statue. Après la restitution du corps à la Turquie, les Danois ont commencé à dire que peut-être cette tête n'est pas vraiment celle de la statue. Plusieurs parmi vous n'auront pas manqué de remarquer que même manumissio, dans ce passage est un terme métaphorique, signifiant que quelqu'un est relâché, mittere, de la main, manu. Un esclave libéré, c'est comme si son maître le laissait s'en aller de ses mains, sans le rattraper. Mais il est tout aussi clair qu'ici, manus n'indique pas que l'esclave était concrètement, physiquement, entre les mains du maître, mais bien qu'il était en son pouvoir. Et ce pouvoir est métaphoriquement appelé manus, main. Manumitere est donc renoncer au pouvoir sur l'esclave, qui devient un homme libre. Et vous voyez encore une autre métaphore, parce qu'il y a une libération d'un pouvoir imagé physiquement. Que la main soit un symbole de pouvoir n'est pas étonnant si l'on songe à la main de justice des rois de France, la pouce symbolisant le roi, l'index la raison et le majeur la charité, la foi catholique. Ainsi, ici, tout est figuré. Le mot servus, au fond, l'est aussi, car les Romains croyaient, non à tort, que servus venait de servare. Préservé, c'est-à-dire que servus fait référence au fait que les prisonniers de guerre étaient capturés, mais pas tués, donc sauvés, préservés, ce qui est largement métaphorique car la plupart des esclaves à Rome, les servi, n'étaient pas des prisonniers de guerre, mais des fils d'esclaves. Cela n'enlève rien au fait que ce terme métaphorique porte en lui l'idée pérenne que l'esclave est au pouvoir de son maître, comme l'est le captif capturé par le général victorieux à la guerre. Nous en voyons ici une représentation, un bas-relief, sur l'arc de Septime Sévère dans le Forum de Rome. Ce que je veux dire, c'est que dans le mot « servus », il y a au fond toujours cette image. Et c'est de ça que nous allons en quête dans ce cours cette année. De l'image qui est cachée derrière les mots qui sont imagés. Faisons donc les points. Les termes juridiques clés de ce passage sont métaphoriques ou de synecdoques. Il s'agit dans les deux cas d'idées abstraites traduites en termes corporels, manus, caput. L'ensemble nous montre donc un contexte global dans lequel la propriété, le pouvoir du maître sur l'esclave s'exprime en termes physiques, la guerre qui est sous-entendue dans le nom servus, et ensuite la manus qui est la maîtrise physique. Et dans caput se trouve en quelque sorte l'idée que la condition d'être un membre d'un groupe, d'avoir une personnalité juridique, équivaut à avoir la tête. Le domaine de l'imagination est donc comme une sphère matricielle à partir de laquelle l'univers des concepts se renouvelle continuellement sans pour autant épuiser cette réserve fondatrice. Les métaphores peuvent être des éléments fondateurs du langage juridique. Elles sont des concepts qui le structurent. Alors, voyons maintenant plus précisément ce qu'est une métaphore. Donc, je pensais que cette première séance pouvait être consacrée à définir les termes qui vont nous accompagner. Nous le ferons en deux temps, en nous appuyant d'abord sur la théorisation ancienne, puis sur la théorisation moderne, en particulier la linguistique cognitive. Les deux approches, à mon sens, ne sont pas vraiment éloignées. Et c'est toujours le cas. Le présent n'est jamais si éloigné du passé, surtout lorsque c'est un passé si riche en pensée. Les lieux de discussion de la métaphore dans le monde antique, c'est la rhétorique. c'est-à-dire la technique du discours persuasif. Il existe au moins trois discussions fondamentales, Aristote, Cicéron, Quintilien. Il y a des différences entre les trois, mais les similitudes sont remarquables, et je suivrai la discussion de Quintilien dans l'Institution oratoire. Vous savez, c'est un manuel d'éloquence, c'est-à-dire un traité qui avait pour but justement d'enseigner comment concevoir un discours convaincant. L'institution oratoire a été rédigée vers 95 de notre ère, et la métaphore est traitée dans le cadre de l'élocution, élocution en latin, c'est-à-dire la partie de la rhétorique concernant la manière de mettre les pensées en mots. Donc, élocution, c'est vraiment la partie linguistique de la rhétorique, et aussi stylistique. Pour comprendre ce que Quintilien dit de la métaphore, il est important de partir du constat que, pour lui, la première qualité d'un discours est d'appeler chaque chose par le nom qui lui est propre. Cependant, utiliser tout le temps, donc chaque concept, ou presque, on va voir, un nom qui le désigne proprement. Mais toujours utiliser ce nom propre peut à terme être un défaut. Un bon orateur se doit aussi d'orner son discours, orner, ornatus en latin. Il ne faut pas seulement habiller ses pensées des vêtements à leur taille, c'est-à-dire par les mots propres, mais il faut aussi parfois les faire briller de l'éclat d'un bijou. Et parfois, il ne s'agit même pas d'un choix, du désir d'élégance, il faut chercher ailleurs, car un mot propre n'existe pas. Il faut donc parfois employer des mots transportés, hors lieu, déplacés. Le trope, dit Quintilien, est le transfert d'un mot ou d'une phrase de sa signification propre à une autre, avec adresse. Alors, cette définition s'appuie sur le verbe grec trepo, faire tourner, d'où le mot français tropisme. Il s'agit d'un déplacement, c'est un mot que j'aime, je ne sais pas pourquoi, j'ai un tropisme pour le tropisme. Il s'agit d'un déplacement d'une expression de son champ sémantique d'origine vers un autre. Mais il s'agit d'un déplacement qui doit être effectué à dessein, avec adresse, cum virtute. Et je vous avoue que c'est une traduction que j'ai choisie, mais ce cum virtute, qui est un peu le cœur de cette définition, pose des problèmes. Mais en tout cas, pour moi, c'est sa signification pourra être qu'il faut transporter, mais disons avec adresse. Bon, ce n'est pas n'importe quel déplacement. Il convient de noter que cette définition englobe à la fois le transfert d'un seul mot, seulement un mot, et d'une expression entière, et qu'elle recouvre de nombreux phénomènes différents. Quintilien lui-même indique qu'il y a eu des discussions entre savants sur le nombre et les types de tropes, discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui, il faut le dire. Cela me permet de souligner un aspect très important pour la suite. Le cours s'intitule « Aux métaphores », mais en réalité nous rencontrerons également d'autres figures, telles que la métonymie, la synecdoque, la similitude, l'allégorie. Comme cette figure rentre dans le cadre du trope, nous pouvons les traiter, sauf si nécessaire, de façon unitaire. Alors, je pourrais anoblir ma démarche en invoquant la réduction anthropologique de Gérard Genette, ça serait me faire trop honneur, c'est-à-dire c'est une réduction pragmatique. Pourquoi insister sur les métaphores parmi ces tropes? C'est Quintilien lui-même qui nous le suggère. Commençons donc par le trope le plus courant, donc c'est le plus courant, et de loin le plus beau, à savoir la translatio, appelée en grec métaphora. Un nom ou un verbe est donc transféré d'un endroit où il est approprié à un endroit où il n'y a pas de mot approprié ou où le terme transféré est meilleur que le terme approprié lui-même. Alors, vous voyez, du point de vue étymologique, alors on pourrait se, disons, creuser un peu et se dire que nous sommes ici en face d'une opération logique de Quintilien. Il est en train de définir, et c'est une définition par notation, c'est-à-dire qu'il est en train de définir la métaphore en s'appuyant sur son étymologie. Et comme l'étymologie est une étymologie grecque, de metaphérein, il traduit, il définit la métaphore par le verbe latin correspondant, par le mot latin correspondant, translatio, transferre, donc déplacer d'un endroit à un autre. Donc vous voyez que c'est la métaphore, quand Quintilien nous explique qu'est-ce qu'une métaphore, il est en train de faire sortir du mot son contenu. C'est ça l'opération de définition. Nous employons une métaphore soit parce que c'est nécessaire, donc fonction de la métaphore, soit parce qu'elle exprime mieux le sens ou, comme je l'ai dit, parce qu'elle a plus de beauté. Lorsque le transfert proposé n'a aucun de ses effets, il est inapproprié. Alors, c'est la nécessité qui fait que les campagnards, donc premier, vous voyez, comme un bon enseignant, il suit l'explication dans le même ordre de sa proposition initiale, donc il commence par la fonction, disons, de substitution d'un mot qui n'existe pas pour définir quelque chose, donc c'est nécessaire de faire recours, d'avoir recours à la métaphore. C'est la nécessité qui fait que les campagnards appellent j'aime les bourgeons de vigne, que pourraient-ils dire d'autre? Alors, je sais qu'en français, on ne dit pas j'aime pour signifier les bourgeons de vigne. En italien, c'est un peu plus le cas, on utilise le verbe gemmare. Mais je comprends qu'on comprend cette métaphore. Donc, comme on va le voir, on se rend compte tout de suite aussi que les métaphores sont souvent, disons, trans-historiques, trans-culturelles, mais elles ne les sont pas toujours. Donc, dans ce cas, nous avons une expression qui n'a pas vraiment de comparaison en français. Néanmoins, on le comprend. Et ça, c'est aussi intéressant. Ou que les paysans parlent de la soif de la moisson ou de la souffrance des récoltes. C'est aussi par nécessité que nous parlons, nous, c'est-à-dire, c'est pas un langage technique comme celui de l'agriculture, mais disons, c'est un langage commun, nous parlons, nous, d'un homme comme étant dur ou rude, parce qu'il n'y a pas de terme propre, préexistant, pour ces traits de caractère. Deuxième fonction, constitue des exemples d'un deuxième type, le feu de la colère ou la flamme du désir, ou la chute dans l'erreur. Aucun de ces états ne peut être décrit de manière plus appropriée par ses mots propres que par ses mots détournés. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y m'y attarder, mais en les lisant, je me rends compte qu'il s'agit de métaphores qu'on pourrait appeler de métaphores incarnées, que c'est un terme que nous allons rencontrer d'ici peu. Et je vois qu'il s'agit d'exemples de métaphores incarnées. Voici en revanche, donc, ce genre de métaphores, on l'a bien compris, elles ne sont pas vraiment indispensables, mais elles expriment mieux qu'on pourrait le faire par des mots propres l'idée qu'on veut exprimer. Voici en revanche, qui est purement ornemental, donc ce n'est pas nécessaire, un discours lumineux, l'éclat de la naissance, les tempêtes des assemblées, les foudres de l'éloquence. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires lorsqu'il y a quelqu'un qui sait comme transmettre le savoir, comme quintilien, il n'y a pas besoin d'essayer de mieux le dire qu'il ne l'a déjà fait. Seulement, j'insiste sur le fait que parmi les fonctions de la métaphore, quintilien nous présente une fonction nécessaire de la métaphore en tant que moyen pour forger un vocabulaire technique. Il parle du vocabulaire de l'agriculture. Alors vous voyez, c'est le cas aussi du vocabulaire juridique. Lorsqu'il y a besoin de parler de quelque chose de technique, c'est vraiment un ressort terminologique que d'utiliser des métaphores. Quintilien, ensuite, nous aide à distinguer la métaphore de la similitude. Grande question, quelle est la différence? D'une manière générale, la métaphore est une forme abrégée de similitude. La différence est que dans la similitude, on compare quelque chose à la chose que l'on veut décrire. On compare. Tandis que dans la métaphore, on substitue une chose à l'autre. C'est une comparaison quand je dis qu'un homme s'est battu comme un lion, une métaphore quand je dis d'un homme, c'est un lion. Donc vous voyez, c'est une substitution, tandis que dans le cas de la similitude, le rapprochement est explicite. Il s'est battu comme un lion. Et bien évidemment, ce sont deux façons très différentes d'opérer, mais on ne va pas trop insister sur cette distinction. Enfin, Quintilien propose une quadripartition qui nous donne une grille d'orientation, vous allez le voir, assez remarquable. La métaphore, dans son ensemble, se divise essentiellement en quatre catégories, nous dit Quintilien. D'abord, la substitution d'une chose animée à une autre. Par exemple, lorsqu'on dit à propos d'un cocher, le timonier donnant tout son effort fit volter son cheval. Ici, volter, j'imagine qu'en français c'est pas exactement clair, mais bon, on dit volter les chevals, le cheval comme on dirait faire virer de bord le navire. Donc vous voyez l'image du cocher timonier. La substitution, deuxième forme de métaphore, lorsqu'il y a la substitution des choses inanimées à d'autres choses inanimées. Comme dans le propos « il lâche les rênes à sa flotte » ou le mot « abenas »« rennes » est employé en substitution de voile. Donc, il y a substitution de quelque chose d'inanimé par quelque chose d'autre qui est aussi inanimé. inanimé pour animé. Et c'est par l'épée ou par le destin que le mur des Argiens s'est écroulé. Alors là, il faut vraiment connaître un peu ce qui est magnifique, c'est que pour nous, c'est très compliqué de voir la métaphore. Où est-ce que la métaphore se cache ici? C'est où la métaphore? Alors, la métaphore est le mur des Argiens. Et c'est Achille. Donc, c'est le rempart, c'est les héros des Grecs. Et donc, on substitue à un homme quelque chose d'inanimé, le mur. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est pas seulement l'exemple de cette catégorie, inanimé pour animé, mais c'est aussi le fait que les Romains pouvaient, disons, évoquer des propos, des vers, qui pour nous sont presque incompréhensibles seulement par quelques mots. Parce qu'ils connaissaient, ils avaient une mémoire, disons, littéraire qui leur permettait de comprendre à quoi se référaient ces mots. Animé pour inanimé, là, vraiment, la traduction est assez compliquée. En entendant le son sur le sommet du crâne d'un haut rocher, un berger s'épouvante sans comprendre la cause. Ici, vraiment, l'animé pour l'inanimé, c'est que pour dire, la pointe d'un rocher, on utilise le mot vertex qui fait référence à la calotte du crâne. Alors, c'est vraiment très difficile de rendre l'idée parce que, vraiment, pour nous aussi, c'est déjà une métaphore complètement morte. Donc, qu'on l'utilise sans plus entendre que cela fait référence à quelque chose de corporel. En tout cas, il y a quelque chose d'animé, une partie du corps qui substitue quelque chose qui est inanimé, c'est-à-dire la pointe d'un rocher. En particulier, c'est une conclusion sur laquelle je vous prie je me permets de vous d'attirer votre attention. En particulier, un effet merveilleusement sublime est produit si, par une métaphore audacieuse et presque risquée, on attribue à des objets inanimés une activité et des sentiments, comme dans la phrase de Cicéron, « En effet, Tubéron, que faisait ton épée dégainée sur les champs de bataille de Pharsale ? Vers quelle poitrine se dirigeait sa pointe ? Quel sentiment éprouvaient tes armes ?» On va y revenir. Cette quadripartition nous apprend un aspect fondamental, à savoir que la métaphore consiste toujours en la rencontre de deux champs sémantiques. L'un que l'on peut appeler le domaine source, l'autre le domaine cible. Par exemple, dans le cas de l'épée de Tubéron, nous avons le champ d'origine, source, qui est l'homme, le soldat, et le champ cible, qui est l'arme, laquelle est donc, pour ainsi dire, investie du sens propre au domaine source. L'épée, et moi je dirais aussi inversement, donc c'est pas si important que ça, l'épée investit des qualités que l'on peut attendre d'un soldat courageux et dont Cicéron veut faire cruellement remarquer l'absence en Tubéron. Donc cette épée un peu inutile, c'est comme dire que Tubéron lui-même était complètement inutile et était vraiment un soldat lâche. Nous reviendrons sur cet aspect dans un instant, mais écoutons maintenant une dernière considération de Quintilien. Il s'agit à la fois d'un don, la métaphore, que la nature elle-même nous confère et qui est donc utilisé même par des personnes sans instruction et inconsciemment. Et en même temps, d'une expression si étrayante et brillante qu'elle resplendit par sa propre lumière, même dans le discours le plus éclatant. Alors, premier constat, comme on l'a déjà vu, la métaphore est souvent associée à la lumière. Deuxième remarque, pour Quintilien, la métaphore est certes une ressource typique de l'orateur expert. Donc, quelque chose que l'on apprend, une technique, c'est pour ça qu'il en parle dans la rhétorique, parce que la rhétorique, c'est l'art, la technique du discours convaincant. Donc, il veut enseigner comment mieux utiliser la métaphore pour convaincre. Et donc, c'est une technique. Ça appartient à la technique. Mais la métaphore, c'est avant tout une façon de s'exprimer qui nous vient de la nature, même sans le vouloir. Alors, cela semble trivial, mais cela anticipe de près de 2000 ans une avancée radicale, celle qui porte le nom de linguistique cognitive. Alors, regardons ce graphique tiré de Google Ingram. Il montre la fréquence du mot métaphore dans les textes francophones. Alors, vous savez que maintenant, on utilise ce, pour, disons, se passer d'une bibliographie, on montre ça et c'est fait. Hein. Vous pouvez. Alors, mais dans ce cas, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez qu'à partir autour des années 70, la fréquence monte en flèche. C'est vraiment un tournant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est le produit. Lorsqu'on se demande quel est l'impact de nos études, ça, on le voit. C'est un impact mesuré dans le vocabulaire, dans l'usage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une série d'études, notamment aux États-Unis, sans pourtant oublier la France, par exemple, l'essor de la nouvelle rhétorique en France. Alors, je citerai l'étude, le livre de Max Black en 1962, mais surtout le livre de George Lakoff et Mark Johnson de 1980. Le livre s'intitule « Metaphors we live by », bien traduit en français par « Les métaphores dans la vie quotidienne ». Comme l'avait dit Quintilien, Lakoff et Johnson se rendent compte qu'une grande partie de la façon dont nous nous exprimons est métaphorique. C'est ça que je disais. Bon, la remarque de Quintilien qui disait c'est une technique, mais c'est aussi quelque chose qui vient de la nature, c'est pas du tout trivial, parce qu'il a fallu 2000 ans pour vraiment recommencer de ce constat et, disons, repenser le champ et la fonction et même la nature de la métaphore. Donc, les deux savants se rendent compte qu'une grande partie de la façon dont nous nous exprimons est métaphorique. Il ne s'agit en aucun cas d'un cantonnement, un discours élégant. Il y a plus, c'est une façon de nous exprimer qui détermine la manière dont nous comprenons le monde, un instrument cognitif. Ce sont, disent-ils, des images organisatrices. Donc, encore une fois, vous voyez où mon discours s'oriente, vers quoi mon discours s'oriente, c'est-à-dire je suis intéressé par les biais des métaphores de comprendre les concepts organisateurs qui sont la matrice des métaphores. Alors, les métaphores qui retiennent l'attention de Lakoff et Johnson sont justement celles dont Quintilien nous dit que sont les plus naturelles, celles que nous employons tous les jours. Prenons l'exemple classique. Le temps, c'est de l'argent. Cela implique de concevoir la notion abstraite de temps comme une substance que l'on peut par exemple, économiser, gaspiller, perdre, que l'on peut aussi donner. Cette idée des fonds s'est traduite par un grand nombre d'expressions. Tu vas gagner du temps, ne me fais pas perdre mon temps, il faut savoir organiser son temps. Alors, vous voyez, c'est important ce passage, ce sont toutes des métaphores, même si nous ne les ressentons pas comme telles, d'abord. Donc, nous les utilisons, mais sans vraiment... Parce qu'on comprend, le temps c'est de l'argent, on comprend, c'est presque un proverbe. Mais lorsque nous disons, ne me fais pas perdre mon temps, on n'a pas l'idée, le sentiment qu'il s'agit de métaphore. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une métaphore qui a sa matrice dans cette image, dans cette métaphore conceptuelle, le temps est, c'est de l'argent. Alors, ces métaphores, disons, les expressions « tu vas gagner du temps » et les autres que j'ai prononcées dérivent toutes de la même matrice. Et donc, cette matrice constitue ce que les linguistes appellent métaphore conceptuelle. Celle-ci correspond à l'interaction entre deux concepts, un concept source et un concept cible, un domaine cible, argent, temps. Alors, une telle relation entre source et cible n'implique pas, bien évidemment, que tout ce qui est lié à la notion d'argent est transféré au temps. C'est ça, disons, le secret de la métaphore. Il n'y a pas un transfert complet de ce qui est lié au champ source au domaine cible. Seulement quelques traits sont transférés d'un champ à l'autre, notamment dans ce cas, l'idée qu'il s'agit d'une valeur, le temps est une valeur, quelque chose de précieux, qu'on peut s'activer pour l'utiliser plus ou moins bien. C'est ça que le temps prend du champ de l'argent. Alors, ce genre d'idée de fond, de métaphore conceptuelle, répond d'habitude à notre besoin d'attribuer une forme à quelque chose qui ne l'a pas. Donc, normalement, il s'agit d'un champ plus concret qui donne ses idées et sa forme à un champ plus abstrait et normalement plus complexe. Donc, normalement, disons, le champ source est mieux défini par rapport à celui qui est le cible. Alors, nombre de ces métaphores se retrouvent dans plusieurs langues. J'ai déjà évoqué cet élément. Par exemple, celle qui met en relation le temps et l'argent n'est pas une invention moderne. Normalement, on dit que c'est Benjamin Franklin qui l'aurait inventé et en lien avec le capitalisme. Mais en réalité, elle était déjà exprimée par Antiphon. Cette diffusion des mêmes métaphores nous fait faire un pas en avant. Alors, notre pensée porte en réalité la marque de l'expérience que nous avons de notre propre corps et du monde physique qui nous entoure. Appartenant à une même espèce, les humains font à cet égard, indépendamment de leur culture, une expérience comparable sur beaucoup de points, d'où l'importance sans doute universelle, par exemple, de la verticalité, de l'orientation avant-arrière, ou encore de l'opposition intérieure-extérieure, à partir de notre propre corps, bien évidemment. Alors, l'expérience qui est faite, entre autres, le bébé, de la chaleur physique dans les bras de ses parents, entraîne par exemple la métaphorisation d'une relation affective en termes de proximité et de chaleur, d'où nos salutations chaleureuses. Lakoff et Johnson appellent ce genre de métaphore orientationnel, résultant pour l'essentiel de notre configuration de primates bipèdes qui donne en particulier une importance particulière à la verticalité, à la position haut-bas. Le bonheur est en haut, la tristesse en bas. Remonter les morales, il est déprimé. L'élite est en haut, la masse est en bas. Métaphore, chute de prestige, l'échelle sociale, ascenseur social. Donc vous voyez que c'est notre expérience corporelle qui engendre un certain nombre de métaphores. Alors, il en existe une autre type qu'on qualifie de métaphore ontologique. Alors, je sais qu'il s'agit de beaucoup de, disons, de concepts, et je pense que c'est un peu un devoir, hein, lorsqu'on commence un cours, de vous donner les points de repère. Seulement, j'espère de vous les avoir donnés d'une façon linéaire, au moins qui ne soit pas trop compliqué. Alors, métaphore ontologique. Elle répond à notre besoin de chosifier et parfois de personnifier les abstractions pour mieux les appréhender. Par exemple, l'inflation dévore notre épargne. Donc vous voyez, nous donnons un corps à l'inflation et aussi une attitude. Elle dévore notre épargne. Et les métaphores ontologiques et orientationnelles peuvent se cumuler. L'inflation est en train de faire baisser notre niveau de vie. Enfin, il y a des métaphores structurales. Nous les connaissons déjà. Elles consistent en une association entre un domaine cible abstrait et complexe, et un domaine source bien défini. Alors, le choc entre les deux domaines, entre les deux champs, est très productif. Nous avons déjà considéré l'image « le temps, c'est de l'argent », mais il existe aussi « l'amour, c'est un voyage ». Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que dans ce dernier cas, on n'est pas vraiment conscient de l'existence de cette métaphore mère, de cet archétype. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un astérisque, une étoile, lorsqu'il n'y a pas vraiment l'expression. On a l'expression « le temps, c'est de l'argent », mais on dit presque jamais « l'amour, c'est un voyage ». Ça, c'est la matrice, c'est l'image, c'est la métaphore conceptuelle, justement. Néanmoins, l'idée « l'amour est un voyage » est une matrice qui produit bien des expressions. Nous sommes dans une impasse. Ce sera un nouveau départ. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Mais ce n'est pas seulement une façon de s'exprimer, c'est aussi un modèle qui nous oriente aussi dans nos comportements, nous fait vivre l'expérience de l'amour en tant que parcours. Nous aurons d'autres occasions de revenir sur cette théorisation, mais je pense que vous avez compris l'intérêt d'explorer les textes des juristes romains en quête non seulement des métaphores comme expression, mais comme image en arrière-plan, vecteur d'idées structurantes, parfois inaperçues, mais toujours en activité. Dorénavant, chaque fois que nous rencontrerons une métaphore dans le droit, nous saurons qu'il faut aller voir derrière, parce qu'elle révèle une manière de voir, disons, elle nous donne accès aux idées fondatrices du droit. Pour conclure, revenons à l'Antiquité. à ce que Cicéron, avant Quintilien, disait de la métaphore dans le magnifique traité de l'orateur, écrit vers 505 avant Jésus-Christ. Alors, souvent, dit Cicéron, la métaphore est un moyen d'atteindre la concision, comme dans le cas de si le projectile s'est enfui de sa main. Plusieurs mots propres ne pourraient pas rendre d'une manière plus vive que ne le fait une seule expression figurée le caractère non prémédité du lancement du trait. Alors, Cicéron évoque ici de façon incomplète une norme de la loi des 12 tables. S'il le fait de manière incomplète, c'est parce que, je répète ce que j'avais déjà dit à propos de la poésie, c'est parce qu'il s'agissait d'une norme que tout lecteur avait en tête. Cicéron lui-même dit qu'il avait appris par cœur la loi de 12 tables à l'école. Et donc, tout lecteur aurait pu compléter presque automatiquement cette citation, comme nous le faisons avec un proverbe laissé en suspense. Alors, la norme est celle que vous voyez dans la suite. Je vous la présente dans l'édition qui fait référence de Michel Ambert, et nous avons l'honneur d'avoir l'auteur ici même. Si le projectile s'est enfui de sa main, plutôt qu'il ne l'a lancé, que l'homicide offre un bélier de substitution. Ça, c'est la norme des 12 tables complétée. Alors, vous voyez la différence. Cicéron et ses lecteurs avaient en tête ce verse de la loi de 12 tables, tandis que nous, pour nous, c'est un travail de reconstitution. Alors, vous voyez la différence. Quel est, disons, le poids de ce voyage dans l'Antiquité? C'est une norme pour le cas d'homicide involontaire. Donc, disons, la norme des 12 tables est une norme pour ce que nous définirons un homicide involontaire, c'est-à-dire le fait de causer la mort de quelqu'un sans le vouloir. Alors, article 221.6 du Code pénal français. Le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues de l'article 121.3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. Alors, norme de 12 tables plus modeste, elle prend en considération l'homicide causé par les biais d'une arme, notamment un trait, un projectile. La loi parle à la fois de l'auteur de l'homicide et aussi de l'arme. Et elle lui donne vie à l'arme. Parce que vous voyez, le sujet de la première phrase, c'est telum, c'est le projectile. Si le projectile s'est enfui de sa main, plutôt qu'il, l'homme, ne l'a lancé. Alors, la norme tire les conséquences de cet événement fortuit. L'homme ne sera pas puni, il ne payera pas par son corps la mort du corps d'autrui, mais il pourra expier le fait par le sacrifice d'un bélier en substitution. Cela nous fait remonter une époque où, évidemment, on ne recourait pas à des idées abstraites pour dire le droit. Si on fait la comparaison avec l'abstraction de l'article du Code pénal français, c'est complètement évident. On n'utilise pas des mots abstraits. On restait très proche de la réalité. La réalité, c'est peut-être trop vite dit. L'homicide involontaire n'est pas un objet qui existe en nature. Il n'existe que si l'on nomme. Et les 12 tables l'ont nommé par les biais d'une métaphore. Je conclue. Cet exemple nous est rapporté par Cicéron. Mais vous vous souvenez que Cicéron, selon Quintilien, avait utilisé une métaphore pour parler de l'épée de Tubéron. Soldat peu courageux, en prêtant à son épée les traits de quelque chose d'animé. Je pense que vous vous en souvenez. Ne s'agit-il pas de la même opération effectué par les 12 tables, et peut-être que Cicéron, en construisant sa métaphore de l'épée des tubérons, avait en sa mémoire profonde justement la norme, cette norme des 12 tables. Alors, c'est une autre façon de nous montrer à quel point les métaphores influent sur notre pensée et nous permettent d'explorer l'Antiquité. Pas seulement le champ juridique, mais le champ du discours, d'autres discours qui l'entourent. Les métaphores sont des voiles, à la fois des voiles qui cachent des idées et des voiles pour traverser la mer de l'histoire. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.